Il est 6h19, les nuits des astronomes ne sont plus ce qu'elles étaient, la faute aux satellites toujours plus nombreux et qui émettent une luminosité gênant l'observation du ciel, d'où des appels à une régulation internationale. Cette pollution lumineuse va faire l'objet d'une réunion d'un comité spécialisé de l'ONU toute cette semaine. Bonjour Éric Lagadec.
Bonjour Mathilde Minos.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Et vous allez participer à cette réunion en tant que président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Si vous en appelez à l'ONU, c'est que l'affaire est grave, à ce point-là ?
En fait, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on a été assez surpris en 2019 quand les premiers satellites ont été lancés. C'est-à-dire qu'on voit, enfin, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ont vu ces satellites, c'était très brillant. Donc,
les satellites d'Elon Musk, c'est ça en fait.
Les satellites sont lancés par 60 et ça gêne les observations parce qu'on voit des traînées. Donc il y a deux types de pollution. Donc il y a des pollutions dans la lumière visible, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, on voit des traînées sur le ciel donc, quand on observe. Et aussi de la pollution au niveau de la lumière en ondes radio, donc c'est de la lumière à plus grande longueur d'onde, qui sert notamment au niveau des télécommunications. Et on construit des grands radiotélescopes dans le désert pour observer des choses très faibles. Et ces satellites, potentiellement, peuvent apporter une très forte pollution.
Mais de quels satellites parlez-vous ? Ce sont ceux du projet Starlink d'Elon Musk, là, ces espèces de barrettes géantes, de grappes de satellites censés apporter l'Internet à haut débit partout dans le monde, ou il s'agit de tous les satellites, n'importe quel satellite émet de la lumière ?
C'est-à-dire qu'il y a des satellites depuis longtemps dans le ciel. On a fêté les 60 ans de Yuri Gagarin. Vous savez que la course vers l'espace, ça fait maintenant plus de 60 ans que ça existe. Donc il y a ce qui est nouveau maintenant, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'avant, les satellites étaient assez brillants, mais très peu nombreux. On est passé de à peu près 6000 satellites dans le ciel. Et avec Starlink d'Elon Musk, il y en aura potentiellement 42 000 et il y aura d'autres superconstellations. Donc vous pouvez imaginer que le principal changement, c'est le nombre maintenant.
Il y a d'autres sociétés privées ou publiques qui envisagent d'inonder l'espace de satellites comme Elon Musk ?
Oui, en fait, il y a OneWeb qui est soutenu notamment par le gouvernement anglais. Et il y a Kuiper qui est de Jeff Bezos d'Amazon. Et on imagine que dans le futur, il y aura d'autres pays qui vont s'y lancer, notamment les Russes et les Chinois.
Et quelle que soit la distance où se trouvent ces satellites, ils sont gênants ?
En fait, ils sont gênants, mais à des degrés moindres. D'ailleurs, c'est l'une des discussions qu'on va avoir là, c'est de voir comment trouver la distance optimale, parce que l'altitude va changer la brillance, mais aussi la durée pendant laquelle il va être illuminé. Et ce qui est important, c'est qu'il soit le moins illuminé possible par le soleil pour pas qu'il gêne les observations.
C'est ce que j'allais vous demander. D'où elle vient, cette lumière ? Ils n'ont pas des phares, hein, les satellites. Ils réfléchissent la lumière du soleil, c'est ça ?
Bien sûr, ils n'ont pas de phares. Ce qu'ils font, c'est qu'ils réfléchissent la lumière du soleil. Mais il y a une autre pollution qui est très importante aussi. C'est que, en fait, ces satellites, à un moment, il faut qu'ils transmettent les données vers la Terre. Et quand ils transmettent ces données vers la Terre, ils envoient des ondes radio. Et à ce moment-là, c'est ça qui est très important, d'éviter que ces ondes radio soient transmises au sud des observatoires.
Et donc, vous nous le disiez, ça fait donc comme des lignes lumineuses sur les images que vous avez quand vous observez le ciel. Ça veut dire que ces observations sont devenues inutilisables, inexploitables par les scientifiques ?
Ça dépend des observatoires utilisés, en fait, parce que, en gros, les observatoires qui sont les plus impactés par ces satellites sont les observatoires qui observent la plus grande portion du ciel le plus rapidement possible. Et pour ça, l'observatoire qui va être le plus impacté, c'est un grand projet pour lequel la France est impliquée, qui s'appelle le Vera Rubin Observatory. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y aura jusqu'à 40% des observations de cet observatoire qui vont être endommagées, même bonnes à jeter.
Ah bon, c'est déjà que il y a 40% qui part à la poubelle.
C'est des estimations. On peut savoir en suivant, en faisant des modèles, en regardant un petit peu ce que ça va donner. Donc l'idée, c'est d'essayer d'empêcher ça quand même.
Et au-delà de cette conséquence donc sur l'observation du ciel, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas, pour les animaux, est-ce que ça les gêne aussi parfois ?
En fait, la pollution de ces satellites n'a aucun impact sur les animaux. Mais par contre, une autre chose dont on va discuter, c'est la pollution lumineuse. Donc là, ce qui va se discuter à l'ONU, c'est qu'il n'y a pas de règles au niveau de la pollution lumineuse par les satellites. Donc il y a des règles très claires pour les ondes radio, parce que c'est quelque chose dont on se sert pour la télécommunication, notre civilisation s'en sert beaucoup. Donc là, il y a des règles très claires, mais il n'y a pas de règles pour la pollution lumineuse. Et la pollution lumineuse, elle peut être due soit par ces satellites, soit par la lumière des villes. Donc les satellites, c'est quelque chose d'international. Vous pouvez bien imaginer qu'il faut un traité international parce que ces satellites passent au-dessus de tous les pays. Mmh. Mais la pollution lumineuse, qui est quelque chose, c'est qui éclaire la lumière des villes. Enfin, j'imagine, si vous vivez à Paris, vous voyez bien que vous voyez moins d'étoiles à Paris qu'ailleurs. C'est un impact assez important sur la biodiversité, parce que plus de la moitié des animaux sont des animaux nocturnes et du coup ils perdent leur habitat. Il y a aussi des oiseaux migrateurs qui se repèrent à la lumière de la Voie lactée, c'est assez hallucinant. Et pour les êtres humains, ça a un impact. Vous savez, vous avez sûrement entendu parler de cette molécule pour le sommeil qui nous aide à dormir. Et en fait, si le rythme de la différence entre le jour et la nuit change à cause de la pollution lumineuse, ça peut perturber notre sommeil et ça a aussi pas mal d'autres impacts sur la santé humaine. Donc c'est important pour à ce niveau-là d'avoir une prise de conscience des citoyens, mais aussi des décideurs, que cette pollution lumineuse a une importance et que c'est quelque chose qui peut même rapporter. C'est-à-dire que corriger cette pollution lumineuse, souvent c'est des solutions assez simples, il suffit d'empêcher que la lumière aille vers le ciel par exemple, et ça serait aussi des économies.
Et corriger la pollution lumineuse des satellites, ça c'est facilement faisable?
Ça, c'est une très bonne question. Ben, idéalement, les astronomes auraient aimé que ces satellites ne décollent pas, mais souvent, l'aspect économique est plus important que le bien de la société. Donc, en fait, ce qu'on peut faire
Ils
maintenant,
apportent
c'est
quand
essayer
même
de
des choses
discuter.
utiles, ces satellites, hein, notamment en termes de météorologie, par exemple.
Évidemment, les satellites sont très importants. Je les utilise moi-même pour l'astronomie, pour surveiller la planète, pour mieux comprendre l'évolution de la planète. Évidemment, on a besoin de satellites. Et donc, ce qu'il faut, c'est discuter avec des gens qui construisent des satellites pour essayer de faire en sorte qu'au moment du design des satellites, ils prennent en compte l'astronomie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voir l'orientation des panneaux solaires, comme on disait tout à l'heure, pour éviter qu'ils soient trop brillants, voir leur plan d'orbite, et même aussi qu'ils nous communiquent les plans d'orbite des satellites pour qu'on sache à n'importe quel moment exactement où ils se trouvent, pour qu'on puisse prédire nos observations et les préparer et les faire au bon moment.
Mais je voyais aussi, par exemple, certains qui disent pourquoi on les peint pas tout simplement en noir pour que ça réfléchisse moins, ou est-ce qu'on met des systèmes de pare-soleil? Ça pourrait se faire, ça? Ça pourrait être aussi simple que ça?
Le peindre en noir, c'est quelque chose qui a été fait, mais si j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience, si vous êtes en été, quand il fait chaud, vous mettez un t-shirt noir, vous allez voir qu'il fait plus chaud. Bah, c'est ce qui s'est passé avec des satellites. Si on les peint en noir, ils chauffent, et c'est pas très bon pour l'électronique des satellites. Ce qu'on peut faire, oui, les pare-soleil, ça marche assez bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des discussions avec Starlink qui ont fait que maintenant, les satellites sont moins visibles. C'est-à-dire que, au moment des lancers, on les voyait assez facilement à l'œil nu. Maintenant, ils ne sont plus visibles à l'œil nu. Oui, il se trouve qu'avec les télescopes qu'on a actuellement, on peut voir des choses qui sont 1 milliard de fois moins brillantes que ce qu'on voit à l'œil nu. Donc, ils sont encore bien évidemment visibles avec les télescopes. Mais quand ils sont en orbite, on les voit plus à l'œil nu.
Merci Éric Lagadec, président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Vous allez participer cette semaine à la réunion du COPUOS. C'est ce comité dont on a parlé, hein, tout au long de l'interview, comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace, avec dans l'optique de trouver une réponse à cette pollution lumineuse des satellites. Merci beaucoup Éric Lagadec, vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.